Le dogme scientifique. La science moderne n'a pas de dogme. En revanche, elle possède un noyau commun de méthodes de recherche qui reposent toutes sur la collecte d'observations empiriques, ce que nous pouvons observer avec au moins un de nos sens, et leur agencement à l'aide d'outils mathématiques. Tout au long de l'histoire, on a recueilli des observations empiriques, mais celles-ci ont été habituellement d'une importance limitée. À quoi bon gaspiller des ressources précieuses pour glaner de nouvelles observations quand nous avons déjà toutes les réponses dont nous avons besoin? Les modernes, ayant fini par admettre qu'ils n'avaient pas les réponses à certaines questions très importantes, ont jugé cependant nécessaire de rechercher un savoir entièrement nouveau. De ce fait, la méthode de recherche moderne dominante tient pour acquise l'insuffisance du savoir ancien. Au lieu d'étudier des traditions anciennes, l'accent porte maintenant sur les observations nouvelles et les expériences. Quand une observation présente contredit la tradition, nous donnons la préférence à l'observation. Bien entendu, les physiciens qui étudient les spectres de galaxies lointaines, les archéologues qui analysent leurs trouvailles dans une cité de l'âge du bronze, et les sociologues qui examinent la naissance du capitalisme ne méprisent pas la tradition. Ils commencent par étudier ce qu'ont dit et écrit les sages du passé. Dès leur première année d'études supérieures, cependant, les physiciens, archéologues et sociologues en herbe apprennent qu'ils ont pour mission d'aller plus loin qu'Albert Einstein, Heinrich Schliemann et Max Weber. Toutefois, les simples observations ne valent pas connaissance. Pour comprendre l'univers, il nous faut relier les observations en théorie générale. Les traditions antérieures formulaient habituellement leurs théories sous forme d'histoire. La science moderne recourt aux mathématiques. Il est fort peu d'équations, de graphiques et de calculs dans la Bible, le Coran, les Védas ou les classiques confucéens. Quand les mythologies et les écritures traditionnelles énonçaient des lois générales, elles les présentaient sous forme narrative plutôt que mathématique. Ainsi, un principe fondamental de la religion manichéenne affirmait que le monde est un champ de bataille entre le bien et le mal. Un mauvais démiurge a créé la matière, tandis qu'une force bénéfique a créé l'esprit. Les hommes sont pris entre ces deux forces et doivent préférer le bien au mal. Mais le prophète Mani n'eut pas l'idée d'offrir une formule mathématique utilisable pour prédire les choix humains en quantifiant l'intensité respective de ces deux forces. Jamais il ne calcula que la force agissant sur un homme est égale à l'accélération de son esprit divisée par sa masse corporelle. Or, c'est exactement ce que les hommes de science cherchent à accomplir. En 1687, Isaac Newton publia The Mathematical Principles of Natural Philosophy, principe mathématique de la philosophie naturelle, que l'on peut présenter comme le livre le plus important de l'histoire moderne. Newton exposa une théorie générale du mouvement et du changement. La grandeur de sa théorie tenait à sa capacité d'expliquer et de prédire les mouvements de tous les corps dans l'univers, de la chute des pommes aux étoiles filantes, en se servant de lois mathématiques simples. Dès lors, qui souhaitait comprendre et prédire le mouvement d'un boulet de canon ou d'une planète devait simplement mesurer la masse de l'objet, sa direction, son accélération et les forces qui agissaient sur lui. En insérant ces chiffres dans les équations de Newton, on pouvait prédire la position future de l'objet. C'était magique. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les savants firent quelques observations qui ne cadraient pas très bien avec les lois de Newton et qui débouchèrent sur les révolutions suivantes en physique, la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Newton montra que le livre de la nature est écrit en langage mathématique. Certains chapitres, par exemple, se réduisent à une équation claire et nette. Mais les chercheurs qui ont tenté de réduire la biologie, l'économie et la psychologie à de belles équations newtoniennes ont découvert que ces champs sont d'un tel niveau de complexité que cette aspiration est futile. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils aient renoncé aux mathématiques. Au cours des 200 dernières années se développa une branche des mathématiques destinée à traiter des aspects les plus complexes de la réalité, les statistiques. En 1744, deux pasteurs presbytériens d'Écosse, Alexander Webster et Robert Wallace décidèrent de créer un fonds d'assurance vie qui verserait des pensions aux veuves et aux orphelins des ecclésiastiques morts. Ils proposèrent que chaque pasteur verse une petite fraction de son revenu au fonds, qui placerait leur argent. Si un pasteur mourait, sa veuve toucherait des dividendes sur les profits réalisés par le fonds. Ainsi, pourrait-elle vivre confortablement pour le restant de ses jours. Mais pour déterminer à combien devait s'élever la cotisation des pasteurs pour que le fonds eût de quoi honorer ses obligations, Webster et Wallace avaient besoin de pouvoir prédire combien de pasteurs mourraient chaque année, combien de veuves et d'orphelins ils laisseraient et combien d'années les veuves survivraient à leurs époux. Remarquez bien ce que les deux hommes d'église ne firent pas. Ils n'implorèrent pas Dieu dans leurs prières pour qu'il leur révèle la réponse. Ils ne recherchèrent pas une réponse dans les Saintes Écritures, ni dans les œuvres des anciens théologiens. Ils n'entrèrent pas non plus dans une dispute philosophique abstraite. Écossais, ils avaient le sens pratique. Ils contactèrent un professeur de mathématiques de l'Université d'Édimbourg, Colin McLaurin. Tous trois recueillirent des données sur l'âge auquel les gens mouraient et s'en servirent pour calculer combien de pasteurs étaient susceptibles de trépasser chaque année. Leur travail se fondait sur diverses percées récentes dans le domaine des statistiques et des probabilités, dont la loi des grands nombres de Jacob Bernoulli. Ce dernier avait codifié un principe. Sans doute était-il difficile de prédire avec certitude un fait unique, comme la mort d'un particulier, mais il était possible de prédire avec une grande exactitude l'occurrence moyenne de nombreux événements semblables. Autrement dit, si McLaurin ne pouvait se servir des maths pour dire si Webster et Wallace mourraient l'année suivante, avec suffisamment de données, il pouvait leur dire combien de pasteurs presbytériens écossais mourraient très certainement l'année suivante. Par chance, ils avaient des données toutes prêtes dont ils pouvaient se servir. Les tables de mortalité qu'Edmund Halley avait publiées un demi-siècle auparavant se révélèrent particulièrement utiles. Halley avait analysé les dossiers de 1238 naissances et 1174 décès obtenus auprès de la ville de Breslau en Allemagne. Les tableaux d'Halley permettaient de voir, par exemple, qu'une personne de 20 ans a une chance sur 100 de mourir une année donnée, mais qu'on passe à une chance sur 39 pour une personne âgée de 50 ans. Partant de ces chiffres, Webster et Wallace conclurent qu'il y aurait en moyenne, à tout moment, 930 pasteurs presbytériens écossais vivants. Une moyenne de 27 mourraient chaque année, dont 18 qui laisseraient une veuve. 5 des pasteurs sans veuve laisseraient des orphelins, et 2 des pasteurs, quittant une veuve éplorée, laisseraient aussi des enfants nés de précédents mariages qui n'avaient pas encore atteint l'âge de 16 ans. Ils calculèrent en outre combien de temps s'écoulerait probablement avant qu'une veuve meure à son tour ou se remarie, ces deux éventualités suspendant le versement de la pension. Ces chiffres permirent à Webster et à Wallace de déterminer le montant de la cotisation des pasteurs soucieux de pourvoir aux besoins des leurs. Avec 2 livres, 12 shillings et 2 pence par an, un pasteur avait la certitude que sa veuve toucherait au moins 10 livres chaque année. Une somme rondelette en ces temps-là. S'il estimait que cela ne suffisait pas, libre à lui de cotiser davantage jusqu'à 6 livres, 11 shillings et 3 pence par an, ce qui assurait à sa veuve la coquette somme de 25 livres par an. En 1765, suivant leurs calculs, le fonds de prévoyance des veuves et enfants des pasteurs de l'Église d'Écosse aurait un capital de 58 348 livres sterling. Leurs calculs se révélèrent d'une exactitude stupéfiante. Cette année-là, le capital du fonds s'élevait à 58 347 livres sterling, soit 1 livre de moins que prévu. Encore mieux que les prophéties d'Habacouc, Jérémie ou Saint-Jean. Aujourd'hui, le fonds de Webster et Wallace, connu simplement sous le nom de Scottish Widows, est une des plus grandes compagnies d'assurance du monde. Avec des actifs d'une valeur de 100 milliards de livres sterling, elle assure non seulement les veuves écossaises, mais quiconque veut souscrire une police d'assurance. Les calculs de probabilité comme ceux qu'utilisèrent nos deux pasteurs écossais allaient devenir le fondement de la science actuarielle, qui est au centre du marché des pensions et des assurances, mais aussi de la démographie, elle aussi fondée par un homme d'église, l'anglican Robert Malthus. et la démographie fut à son tour la pierre d'angle sur laquelle Charles Darwin, qui faillit devenir pasteur anglican, construisit sa théorie de l'évolution. Alors qu'il n'existe pas d'équation pour prédire le genre d'organisme qui évoluera dans un ensemble de conditions spécifiques, les généticiens utilisent le calcul des probabilités pour évaluer les chances qu'une mutation particulière se répande dans une population donnée. On trouve de semblables modèles probabilistes au cœur de l'économie, de la sociologie, de la psychologie, des sciences politiques et des autres sciences sociales et naturelles. Même la physique finit par compléter les équations classiques de Newton avec les nuages de probabilité de la mécanique quantique. Il suffit de regarder l'histoire de l'éducation pour mesurer où ce processus nous a conduits. Pendant la majeure partie de l'histoire, les mathématiques ont été un domaine ésotérique que même les gens instruits étudiaient rarement. Dans l'Europe médiévale, la logique, la grammaire et la rhétorique formaient le noyau dur de l'éducation, tandis que l'enseignement des mathématiques allait rarement au-delà de l'arithmétique élémentaire et de la géométrie. Personne n'étudiait les statistiques. La théologie était la reine incontestée de toutes les sciences. Aujourd'hui, peu étudient la rhétorique. La logique est réservée au département de philosophie et la théologie au séminaire. En revanche, de plus en plus sont poussés à étudier les mathématiques, ou y sont forcés. On assiste à une irrésistible dérive vers les sciences dites « exactes » en raison de leur recours à des outils mathématiques. Même les champs d'études, qui relevaient traditionnellement des humanités, comme l'étude de la langue, linguistique, et de la psyché, psychologie, s'appuient de plus en plus sur les mathématiques et voudraient donner l'image de sciences exactes. Les cours de statistique font désormais partie des matières obligatoires de base en physique et en biologie, mais aussi en psychologie, en sociologie, en économie et en sciences politiques. Dans la liste des cours du département de psychologie de mon université, le premier cours obligatoire est « Introduction aux statistiques et à la méthodologie en recherche psychologique ». Les étudiants de deuxième année doivent suivre un cours de « Méthode statistique en recherche psychologique ». Confucius, Bouddha, Jésus et Mahomet eussent été interloqués si on leur avait dit que pour comprendre l'esprit humain et guérir ses maladies, il fallait commencer par étudier les statistiques.